20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 25 juillet 2000. Le Concorde AF-4590 à destination de New York s'écrase sur l'hôtel Hotelissimo de Gonesse, faisant 113 victimes. Une catastrophe aérienne qui marquera la fin du mythique avion supersonique. Nous sommes le 25 juillet 2000. Michel Fricheteau, 47 ans, propriétaire de l'hôtel Hotelissimo à Gonesse active. Dans quelques minutes, c'est tout un bus de jeunes choristes britanniques qui va arriver, 60 enfants qui séjourneront dans son établissement. Son mari est parti faire des courses, les cuistots, quant à eux, profitent de leur pause. Il est 16h42. Dans le même temps, et à quelques kilomètres de là, le Concorde AF-4590 décolle de la piste 26 de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Direction New York pour les 100 passagers et 9 membres d'équipage. Le vol durera 3h30, a annoncé l'hôtesse. Dans la cabine de pilotage de cet avion mythique qui atteint les 185 km/h en 9 secondes, le commandant de bord Christian Marty et son copilote Jean Marco ont senti un choc. Une lamelle de titane d'une quarantaine de centimètres de long, perdue peu avant sur la piste par un DC-10 de la compagnie Continental Airlines, vient de faire exploser une roue. Un fragment de 4 kg est projeté à plus de 300 km/h sur le dessous de l'aile, précisément là où se trouve le réservoir de Concorde. Le carburant s'enflamme, l'aile se transforme en torche. Les pilotes n'ont pas encore remarqué l'incendie qui se propage, mais dans la tour de contrôle de l'aéroport, c'est la sidération. On prévient Concorde qu'il prend feu, mais l'avion a déjà passé le fameux point V1, vitesse au-delà de laquelle il est obligé de décoller. Concorde s'élève dans le ciel, malgré deux moteurs hors d'usage et le train d'atterrissage qui refuse de rentrer. L'avion n'a pas assez de puissance pour revenir à Charles de Gaulle, alors Christian Marty et Jean Marco décident donc de se rabattre sur celui du Bourget, à 5 km de là. Ils savent que c'est leur seule et maigre chance. Moins de 2 minutes plus tard, l'avion le plus célèbre du monde se crache sur l'Hotelissimo, le détruisant en totalité. Il est 16h46 en ce 25 juillet 2000. L'accident aérien est le plus meurtrier survenu en France depuis 1974, 113 morts. Les passagers de l'avion périssent sur le coup. 4 employés de l'hôtel meurent dans la catastrophe. Michel Fricheteau, la propriétaire, sera grièvement blessé. Et les 60 enfants qui devaient arriver en bus ont été miraculeusement sauvés par un embouteillage aux abords de Gonesse. Les secours s'activent sur un véritable décor d'horreur, de ferrailles encore brûlantes, de valises éventrées et de corps carbonisés. À 18h25, Lionel Jospin, Premier ministre à l'époque, et Jean-Claude Guessot, ministre des Transports, arrivent sur les lieux du drame. C'est là que ce dernier glissera au président d'Air France KLM, Jean-Cyril Spinetta, « Il ne faut pas que les Concorde revolent demain ». Une décision rarissime qui signe 27 ans après sa mise en service la fin d'un mythe, celui d'un avion qui fascinait par sa forme d'oiseau blanc élancé, joyau de technologie supersonique, fleuron de l'aéronautique française et britannique, mais échec commercial sévère. Concorde volera une dernière fois le 24 octobre 2003. Depuis, il reste cloué au sol dans les musées de France, au Bourget et à Toulouse, mais aussi en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Allemagne. Il observe même les autres avions à l'aéroport d'Orly où il est exposé, mi-flamboyant, mi-pathétique, au regard des voyageurs comme un vestige des heures les plus brillantes et dramatiques de l'aviation. Dans un instant, Gérard Felzer, président d'Aviation Sans Frontières, et Béatrice Vial, une des deux femmes au monde pilote de Concorde et première femme française à avoir piloté un avion de ligne supersonique, seront nos invités. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Bienvenue dans Jour J sur RTL ou en podcast Jour J qui, vous le savez, chaque soir revisite avec vous l'actualité. Il est des événements dramatiques qui nous marquent à jamais. Nous savons tous où nous étions, ce que nous faisions le jour du crash du Concorde. Nous sommes le 25 juillet 2000, il est 17h sur RTL.
Et tout d'abord, on l'apprend à l'instant, un Concorde d'Air France s'est écrasé sur la zone industrielle de Gonesse, en banlieue parisienne. On n'en sait guère plus pour le moment. RTL vous tient bien sûr informé de minute en minute.
Gérard Felzer, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes président d'Aviation Sans Frontières. Vous avez dirigé également le musée de l'air et de l'espace au Bourget, où sont actuellement encore deux exemplaires de Concorde.
Le premier et le dernier.
Voilà. Et vous avez vous-même piloté d'ailleurs le Concorde. Ça n'était pas sur des vols commerciaux?
Non, les vols d'entraînement. Ils m'ont fait la gentillesse de me mettre aux commandes. Donc c'était fabuleux, un rêve. Ce jour-là, j'y étais.
Vous étiez où?
À Roissy. J'étais à la préparation des vols. Et j'ai croisé mes deux amis, qui était Christian Marty, le commandant de bord, et Jean Marco, deux formidables pilotes d'une part et deux amis, j'en ai encore les larmes aux yeux aujourd'hui. Christian Marty, un sportif qui a traversé l'Atlantique en planche à voile, qui amenait toujours son vélo en soute, on était ensemble, moi j'étais pilote sur Airbus 340, et il m'avait dit je te rejoins à l'hôtel en vélo par exemple, alors qu'on s'est cogné 10 heures de vol. Et Jean Marco, plutôt engagé dans le social, alors qu'il fréquentait un public dans le Concorde qui était quand même du CSP+. Donc étonnant, il faisait partie de ma promo, Jean Marco, et on était très liés par un de mes enfants, enfin voilà. Bon, bref, deux figures extraordinaires.
Vous étiez à Roissy lorsque l'on a appris le crash du Concorde?
Oui, on a tout de suite vu la fumée.
Ouais.
On n'a pas vu le décollage, j'étais pas en vue directe, mais ça a été un moment assez fort. On a deviné tout de suite ce qui s'était passé. Quoi.
Donc, vous avez tout de suite compris que c'était cet avion-là?
Bien oui, j'ai ce souvenir que Jean-Marco et Christian me disaient on va passer encore devant tout le monde parce qu'il y a le pétrole qui... et dépensés pendant le roulage. D'ailleurs, ils avaient dépensé 1000 litres avant de décoller. Et puis, je les ai croisés. Ils venaient de faire le briefing des PNC, c'est hôtesse et steward. Et puis, ils montaient dans le bus. Et c'est là, le visage, je leur fais un signe de la main et ils partent à l'avion. Et ensuite, il s'est passé dans l'avion ce qui se passe d'habitude. On prépare le vol, on fait les checklists, etc. Et puis, on demande la mise en route.
Alors, on va revenir justement sur toute la mise en route et de tout ce qui s'est passé justement ce jour-là. L'avion, en tout cas, s'est abattu sur l'hôtel Hotelissimo de Gonesse à 16h46. À 17h06, on ne connaît pas encore les raisons du crash. Écoutez, Pierre Julien, spécialiste de l'aéronautique sur RTL à l'époque, il revient sur la sécurité de l'avion depuis sa mise en service.
Concorde n'a jamais connu d'accident sérieux, a eu des problèmes moteurs parfois, un moteur qui a explosé en vol, mais l'avion revenait toujours là, effectivement. Donc ce serait le premier accident survenu donc à un Concorde depuis l'histoire de cet avion qui est entré en service en 1976.
Gérard Felzer, Concorde était réputé pour être l'avion le plus sûr du monde à l'époque.
Il était très surveillé parce que faire voler un supersonique tous les jours avec des passagers à bord, c'est un challenge incroyable. Et là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ce jour-là? Ils montent dans l'avion et ils commencent leur checklist. Et là, deux minutes vont suivre, deux minutes qui ont été fatales. Tout s'est passé en deux minutes.
Alors, certains ont assisté au crash, à l'instar de Maxime, chauffeur de taxi. Il décrit ce qu'il a vu.
Alors, je partais de Roissy avec un client et j'ai vu le décollage de l'avion avec des flammes à l'arrière. Il a pris un peu d'altitude. Ensuite, il a fait une volte sur la gauche et il est tombé et il a explosé.
Tout s'est passé très rapidement.
Très rapidement, en l'espace d'une minute. Au décollage de l'avion, il y avait des flammes énormes à l'arrière de l'avion. Et ensuite, il a pris un peu d'altitude et il a fait un demi-tour, une volte, et il a piqué, il est tombé.
Et vous avez vu une grosse explosion?
Une explosion énorme, oui. Ça dépassait les arbres, il y avait un petit bosquet. Moi, j'étais sur l'autoroute en direction de Paris et il y avait des flammes, ça représentait, 50 mètres de haut à peu près.
Alors Gérard Felzer, ces flammes dont il parle, là, quels indices livrent-elles?
En fait, on a appris plus tard, j'essaie de me placer dans le cockpit, ce qui s'est passé. Ça aurait pu arriver à n'importe quel pilote. Eh bien, 16h42, autorisation de décoller. Top décollage, on prend un top pour avoir une référence. 20 secondes plus tard, on compare les vitesses entre le copilote et le commandant de bord. On annonce 100 nœuds, 180 km/h. Jusque-là, tout va bien. Mais 9 secondes plus tard, on entend V1. V1, c'est la vitesse critique. Si vous avez une panne avant cette vitesse, vous avez la place de vous arrêter. Si vous avez une panne ou un feu après cette vitesse, il faut décoller. Sinon, c'est le crash en bout de ligne. Et donc, il décolle, puisqu'il est annoncé, on l'entend dans les enregistreurs VR, c'est-à-dire rotation. Et puis, on ne peut plus s'arrêter. Et le contrôle, à ce moment-là, dit « Attention, on voit des flammes ». Et des flammes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a su après. Il y a une lame qui a été laissée par un DC-10 qui a précédé, qui est venue d'échapper un pneu. du train gauche et puis qui est venu frapper le réservoir. Et
donc là, c'est le réservoir qui prend feu parce que le réservoir est dans les ailes.
Voilà, le réservoir est dans les ailes, il y a une fuite et c'est un vrai chalumeau finalement parce qu'il a été mis à feu par la post-combustion, par ces réacteurs Olympus. Ça a été dramatique parce qu'il restait encore une minute et qu'ils ont gardé leur calme parce qu'on entend le contrôleur qui leur dit « Vous avez des flammes, vous voulez revenir et vous reposer tout de suite ?» Il dit calmement, je crois que c'est Jean Marco d'ailleurs, « On n'a plus le temps, on vise le Bourget. » Le Bourget qui était à 3-4 minutes. Et donc, le moteur 1 a été éteint par le mécanicien ensuite, ils ont perdu le contrôle de la
machine.
Pourquoi
est-ce qu'ils ont arrêté le moteur ? C'est pour planer ?
Alarme-feu, donc le moteur en feu, on allume les extincteurs. Et l'alarme s'est éteinte. Donc on pouvait dire quelques secondes de répit en disant on va peut-être s'en sortir. Eh bien non, c'était vraiment pas le réacteur, mais l'avion en entier qui était en feu.
Ce qu'il y a d'incroyable dans cet accident dramatique, au-delà même évidemment du crash et des victimes, on y reviendra dans un instant, mais c'est de se dire qu'en fait c'est une toute petite lame qui faisait 40 cm de long.
C'est
qui
ça.
Était... Mais ça,
oui.
ça peut se produire régulièrement, ça, ce genre de choses quand même ?
Non, vous savez, un accident, c'est plusieurs causes, hein, c'est jamais une seule cause. Donc, on a d'abord cette lamelle de métal qui s'est détachée d'un DC-10 de Continental. Ça, c'est vraiment, là aussi, une circonstance incroyable. Ils devaient décoller, ils avaient du retard parce qu'il manquait des bagages à bord. Ils ont pris ce retard, ils n'auraient jamais dû décoller derrière ce DC-10. C'est une première cause. La deuxième, c'est que le Concorde, il décolle 4 minutes après ce DC-10. C'est vraiment le hasard affreux, incroyable. Et puis la troisième, c'est que cette lamelle avait déjà fait des défaillances chez Continental. Elle avait été changée deux fois déjà. Et donc, on suspecte soit une négligence, soit être pris à la légère. Et cette plaque est tombée sur la piste. Et puis, Aéroport de Paris devait inspecter la piste. Elle l'a fait, mais juste avant et pas après. Donc là aussi, le hasard. Et puis, les pneus dégonflés, les incidents qui ont été déjà constatés par Air France et par British Airways, si on avait résolu le problème, ça ne serait pas passé. Il suffisait qu'un seul de ces éléments n'ait pas lieu, il n'y aurait pas eu d'accident.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui nous replonge ce soir dans les heures noires de l'aviation avec le crash de l'avion le plus incroyable du monde, le Concorde. C'était au cœur de l'été, le 25 juillet 2000. À son bord, 9 membres de l'équipage pour assurer aux 100 passagers un vol agréable de 3h30 environ vers New York. L'accident tragique fera 113 victimes au total, car 4 personnes qui se trouvaient dans l'hôtel périront elles aussi. Le lendemain du crash, le monde est sous le choc et l'heure est au recueillement.
D'abord l'émotion, elle est immense, elle est planétaire. Au lendemain de la tragédie du Concorde d'Air France, les capitales du monde entier ont adressé leurs condoléances au président français, mais aussi bien sûr au chancelier allemand Gerhard Schröder. Sur les 100 passagers de l'appareil, 96 étaient allemands. Les familles des victimes sont arrivées progressivement aujourd'hui, la plupart cet après-midi à l'aéroport de Roissy, où elles ont été accueillies par une cellule de psychologues. Toutes ces familles se trouvent actuellement à Gonesse, où se tient donc une cérémonie œcuménique dans la salle polyvalente de la ville, en présence de Jacques Chirac.
Gérard Felzer, merci d'être avec nous jusqu'à 21h sur RTL dans Jour J. Vous avez dirigé le musée de l'air et de l'espace au Bourget. Vous nous expliquiez il y a un instant les circonstances du crash de Concorde. Vous nous expliquiez aussi que vous étiez à Roissy. Comment ça se passe lorsqu'il y a un crash dans un aéroport ? Quelles sont les premières mesures qui sont prises ?
Alors d'abord, c'est un choc pour tous les personnels de la compagnie. J'ai remarqué qu'il y avait une très grande solidarité à ce moment-là. Les gens étaient derrière, d'abord les équipages, ils les connaissaient, que ce soit les stewards ou les hôtesses de l'air ou les pilotes et mécaniciens. Et puis tout le monde était soudé derrière le président Spinetta, qui a été assez remarquable de ce point de vue-là aussi. Ils ont tout de suite prévenu les familles avec beaucoup de précautions. Ils ont accompagné, tout de suite ils ont mis en place des référents pour pouvoir accompagner les parents des victimes. Et ça a été un grand moment pour l'accompagner. Une prise de conscience en disant, on est dans le même avion, tous. Et que il suffit d'un grain de sable où on est tous concernés. Et ça a été un choc formidable de solidarité.
La veille, le Premier ministre Lionel Jospin et le ministre des Transports de l'époque, Jean-Claude de Guessot, s'étaient rendus sur le lieu du drame. C'est Guessot lui-même qui va demander à ce qu'aucun Concorde ne décolle le lendemain. C'est rare ce genre de mesure déjà.
Oui, c'est arrivé une seule fois dans l'histoire de l'aviation. Ce sont des DC-10 qui perdaient leur moteur à un moment. Ça n'a pas duré longtemps.
Tu m'étonnes.
Et donc là, ça a été une décision qui allait dans le bon sens. C'est-à-dire, entre les Anglais et les Français, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas continuer comme ça.
Mais la à seule cette époque-là, voilà, ça n'était pas définitif.
Voilà, à cette question, la question posée était, est-ce qu'on va reprendre les vols? Alors on a demandé à Michelin de faire des nouveaux pneus radial, qui font aujourd'hui référence dans tout le domaine du transport aérien. Et puis on a renforcé les réservoirs sans trop les charger, parce que c'est un avion qui avait déjà 30 ans, donc on n'avait pas les matériaux à l'époque. Hein. Mm-hmm. Et donc on a estimé, et la DGAC et le BEA, le Bureau Enquête Analyse des Vols, a estimé qu'il présentait suffisamment de transformations et on pouvait reprendre les vols.
Alors il y en a un qui s'est élevé hein, contre ça, c'est Jean-Pierre Blasi, le maire de Gonesse, où se situait l'hôtel Hotelissimo sur lequel s'est crashé Concorde. Il demande la suspension totale et définitive de l'avion.
Je suis franchement en colère de la décision prise de suspendre pour 24 heures les vols de Concorde. Et je demande instamment à M. Spinetta, le président directeur général d'Air France, de prendre les décisions qui s'imposent. Et je demande au ministre Jean-Claude Guessot, le ministre des Transports, de prendre aussi la décision qui s'impose. Tant que nous ne saurons pas la vérité sur les causes de l'accident, eh bien Concorde ne doit plus voler.
Et Concorde a revolé, mais très peu en fait en réalité. Le dernier vol était en 2003.
Absolument, il a été victime de plusieurs choses. D'abord l'attentat de 2001, ensuite c'est un avion qui revenait de plus en plus cher.
L'attentat de 2001, là vous parlez des attentats du World Trade Center.
Absolument, hein. ça a donné un choc sur le transport aérien qui s'est arrêté net à cette époque. Et puis il y a le fait qu'il était plus rentable depuis longtemps et qu'à un moment il faut bien s'arrêter. Un avion c'est pas fait pour durer 50 ou 60 ans.
Alors on va se retrouver dans un instant pour parler justement de l'histoire de Concorde qui en réalité était aussi malheureusement un échec commercial. Ce sera dans un instant dans Jour J, à tout de suite.
Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
Merci d'être fidèle à Jour J que vous suivez chaque soir à 20h sur RTL ou en podcast. Merci pour votre écoute attentive à ce magazine qui revient sur ces événements qui ont marqué nos mémoires. Avant son crash dramatique le 25 juillet 2000, Concorde a connu des heures de gloire et émerveillé le monde entier. Gérard Fetzer, merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité. Racontez-nous l'histoire de Concorde en fait. Comment est né cet oiseau blanc?
Alors d'abord, en 1959, c'est pas d'hier, on s'est mis d'accord entre les Français et les Anglais pour faire un avion supersonique. Ce qui était quand même pas du tout évident, on était juste après-guerre finalement. Hein.
Ce qu'on appelle un avion supersonique, pour ceux qui écoutent, c'est l'avion qui va dépasser
le mur du son, ce qu'on appelle le mur du son, qui n'est pas un mur, mais quand même, il se passe quelque chose. Et donc, il dépasse 1200 km/h, en gros. Et puis, en 63, il y a le général de Gaulle qui annonce le Concorde. Il a trouvé le nom, il trouvait ça très beau. Les Anglais ont dit, on est d'accord sur Concorde, mais sans eux à la fin, pour l'anecdote. Et puis, on s'est mis au boulot. On a fait une maquette à l'échelle 1, la même année, pour savoir où on allait faire passer les fils, les câbles, etc. Et puis, en 69... il y a eu le premier vol, le 001 avec Turca, ça a été un succès tout de suite immédiat, un choc aussi pour les Américains, puisqu'on passait devant tout d'un coup.
Parce que c'était aussi la concurrence européenne face aux États-Unis.
Absolument, c'était ça aussi. C'était l'avion du futur, et pour l'instant, Boeing, il était tout seul avec le 747, qui a volé aussi pour la première fois cette année-là. Et puis en 76, il y a le premier vol commercial d'Air France, à Rio via Dakar, et puis, et voilà, et en 2000, l'accident, et on l'a remis en route pendant très peu de temps pour l'abandonner définitivement en 2003.
Alors, en 76, vous l'avez dit, Concorde décolle pour son premier vol commercial depuis Paris, direction Rio de Janeiro, avec effectivement une escale à Dakar. Le journaliste Yves Mourousier est à son bord et voici l'annonce du pilote aux 100 passagers lorsque l'avion dépasse la vitesse du son.
La compagnie nationale Air France est heureuse de vous annoncer les 100 premiers passagers au monde à voler au-dessus de la vitesse du son au cours d'un vol commercial régulier.
Ça faisait quoi? Quand Concorde donc dépasse la vitesse du son, j'imagine aussi que pour les pilotes dans l'avion, c'est un événement. C'est un événement pour tout le monde, pour les Français, pour les Britanniques, pour le monde entier et pour ceux qui naviguent, qui pilotent.
Absolument, c'est le rêve de tous les pilotes. Hein, de faire du. D'ailleurs, Jean Marco, mon copain de promo, il a refusé d'être commandant de bord Il était donc copilote uniquement pour rester sur le Concorde. Ouais. Et c'est probablement le pilote qui avait le plus d'heures de vol sur le Concorde. Donc c'était un rêve absolu pour tout le monde. Oui.
Après une escale à Dakar, Concorde se pose à Rio, donc sous l'admiration du monde entier. Écoutez.
Il est actuellement 16h06. Dans 30 secondes, l'appareil va se poser. C'est un gros moment de l'histoire de l'aviation civile. C'est arrivé de l'avion supersonique qui a parcouru plus de 9000 km. Et voilà, Concorde s'est posé sur l'aéroport de Rio. Vous avez vu la petite fumée blanche. Actuellement, le commandant Chanoine inverse les réacteurs pour freiner son appareil. Inversion des réacteurs, l'appareil freine. On ne se lasse pas de regarder cet avion dont la silhouette nous est maintenant devenue familière avec son nez mobile, cette forme très particulière. C'est vrai, l'avion est très beau.
Et ça, c'est champagne quand oui. Un avion se pose pour la première fois. Moi, j'ai eu cette chance de faire l'un des premiers vols de l'A380 qui atterrissait à Amsterdam. Et j'ai vu arriver des camions de pompiers sur l'avion en train de l'arroser comme si c'était du champagne.
D'ailleurs, moi, j'ai fait le dernier vol du Concorde en passager pour Washington. Et bien, il y avait les pompiers qui faisaient la haie d'honneur. C'était assez classique, ça c'est émouvant. Après, j'ai aligné tous les anciens présidents qui étaient là, à bord, sur l'aile pour prendre la photo. On avait tous la larme à l'œil, évidemment. Il a terminé dans le musée de Washington, il y est toujours. Et il voulait le peindre avec une marque de boisson, on a refusé quand même.
Ouais.
Mais en tous les cas, il est là et ça montre que la vieille Europe, elle savait prendre des initiatives.
Alors, s'il a des qualités exceptionnelles, l'avion supersonique est un échec commercial. On fait les comptes très vite. Explication de Jean-Claude Bourré.
Mais Concorde, s'il représente un merveilleux appareil, est aussi un échec commercial. Dans les prochains jours, Concorde accueillera son 500 millième passager, 250 000 pour Air France et autant pour la British Airways. Mais la facture kérosène s'alourdit pour les quatre Concorde d'Air France. Cette année, elle s'est élevée à 300 millions de francs, l'équivalent du prix de 2 litres de super pour chaque Français.
Là, on est en 1980.
Les Américains, d'abord, et les Européens ont interdit le survol des terres habitées. Donc, ils ne pouvaient voler en supersonique qu'au-dessus des océans.
Okay.
Et donc, ça limitait forcément sa commercialisation.
Mais évidemment.
Alors donc, il y avait ce premier souci du bang supersonique, mais aussi, il faisait énormément de bruit. Quand il a décollé ce jour-là, où j'étais à Roissy, eh bien, il mettait les gaz, on l'entend ça, et on l'entend à des kilomètres à la ronde. Donc, il y avait un problème de riverains également, qui a été alimenté aussi par les Américains, New York, quand il a fallu trouver de nouvelles trajectoires, de virages assez prononcés pour éviter les habitations, et ce n'était pas évident. Donc, ces deux causes, plus la crise du pétrole, plus l'avion qui commençait à être assez onéreux, il en a eu 7, et 7 d'un côté, 7 de l'autre, avec les Anglais et les Français, ce n'était pas du tout évident à tenir.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J qui se poursuit pour parler de Concorde. D'ailleurs, Gérard Felser, on dit le Concorde ou Concorde ?
Le Concorde.
Le Concorde, d'accord. Donc le Concorde était un avion incroyable, regretté évidemment par tous les passionnés d'aviation. L'était-il aussi des pilotes qui ont eu la chance de le faire décoller ? On accueille tout de suite Béatrice Vial. Bonjour Béatrice, merci d'être avec nous sur RTL.
Bonjour.
Bonsoir à vous. Vous êtes la première femme française à avoir piloté un avion de ligne supersonique, l'une des deux femmes au monde pilote de Concorde. Alors, quand a eu lieu votre premier vol déjà ? C'était en 2001, c'est ça ?
Exactement.
Et oui.
Mon premier vol était le 11 septembre 2001, qui était un vol d'entraînement.
Oui.
Et ensuite...
Un jour bien funeste.
Malheureusement.
Oui.
Et ma première traversée était en octobre 2001.
Les pilotes avaient une formation particulière, j'imagine, hein, pour voler sur Concorde.
Ben, la formation était un peu plus longue que sur un avion classique. Parce qu'évidemment, l'avion était beaucoup plus complexe. Donc, la formation était un peu plus longue au niveau théorique, au niveau simulateur. Et on avait la chance aussi de faire des vols d'entraînement sans passagers à l'époque.
Et j'imagine que c'était un plaisir, Béatrice Vial, que l'on devait savourer aussi particulièrement. Hein. C'était quelque chose d'exceptionnel que de piloter Concorde. Combien d'heures avez-vous faites ?
Alors moi, je n'ai fait que malheureusement que 361 heures sur cet avion.
Ouais.
Évidemment, j'ai été déçue qu'il s'arrête si vite, puisque je n'ai pu en faire que jusqu'au 31 mai 2003. Mais j'ai eu cette immense chance et cet honneur de pouvoir le piloter.
Alors racontez-nous, c'était comment là ? Si on monte dans Concorde et que vous nous emmenez à New York, quels souvenirs gardez-vous ?
C'était un avion où tout allait très vite Évidemment, les premiers vols sur Paris-New York nous paraissaient passer en 5 minutes. Il y avait tellement de choses à faire en même temps. On n'avait vraiment pas le temps de s'ennuyer. C'était quelque chose de magique. Ouais. Parce que aucun des pilotes classiques n'a la chance de pouvoir piloter en supersonique.
Ouais. Mais alors, est-ce qu'on a l'impression d'être, je sais pas, si la comparaison va peut-être vous paraître ridicule, mais comme si on était tout à coup dans une voiture de course, est-ce que c'est plus facile à manœuvrer? Est-ce qu'on sent que c'est un animal plus rapide?
C'est sûr que ça soit la poussée au décollage ou ensuite quand on passait en supersonique, on allumait ce qu'on appelle la post-combustion, les réchauffes. Ouais. Là, évidemment, on sentait qu'il y avait vraiment de la puissance sur cet avion. Ce qui était très particulier aussi sur cet avion par rapport aux autres, c'était l'atterrissage, puisque l'avion était beaucoup, beaucoup plus cabré qu'un avion classique pour pouvoir se poser. C'est pour ça qu'on descendait le nez de l'avion pour pouvoir voir la piste à l'atterrissage.
Est-ce qu'il y avait quelque chose aussi de physique? Quelles étaient les sensations physiques lorsqu'on était dans Concorde?
En fait, c'était un avion fait pour transporter des passagers. Donc, il n'y avait pas de force physique que l'on supportait. C'était un avion qui était très confortable, même s'il était très étroit et pour les passagers, la cabine était très étroite. Les sièges n'étaient pas très larges, mais on ne sentait pas la vitesse. On ne sentait pas qu'on était à Mach 2.
Et c'était un avion, vous l'avez dit, qui était étroit, petit. J'imagine que c'était la même chose dans cette cabine de pilotage avec ce nez-là que l'on pouvait manœuvrer, abaisser.
Tout à fait. Alors en fait, on avait une double visière parce que quand on baissait le nez, la visière qui correspondait au nez se baissait aussi. Et donc en fait, c'était un avion qui était très silencieux parce qu'on avait comme un double vitrage. Et par conséquent, dans le cockpit, on n'avait pas de bruit extérieur quand on avait le nez remonté.
Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être très naïve, mais alors si on ne sentait pas la vitesse, est-ce qu'on voyait quand même défiler les paysages plus rapidement sous l'avion?
Alors en fait, le problème, c'est que quand on était en supersonique, on était beaucoup plus haut que d'habitude. Ah. Et par conséquent, il n'y avait quasiment pas de nuages à cette altitude. Et du coup, ben non, on n'avait pas de repères visuels sur les côtés ou au sol pour réaliser la vitesse à laquelle on allait.
Gérard Felzer.
Oui, bonjour Béatrice, ravi de
revoir
par les ondes. Je me souviens, on a accueilli quand j'étais au Bourget l'avion qui allait définitivement arrêter ses moteurs dans les hangars. C'est des pilotes un peu exceptionnels, les pilotes Concorde, parce que vous êtes très peu nombreux. C'est une petite famille, finalement.
Oui, c'est une petite famille, mais c'est vrai que ceux qui ont eu la chance d'en faire, on pense que c'est un immense privilège d'avoir eu la chance d'en faire. Mais on n'est pas plus exceptionnel que les autres.
Et dites-moi, Béatrice Vial, qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris que l'avion s'arrêtait? Parce que on parle d'un avion, on parle d'une machine et en même temps d'une prouesse. Est-ce que vous avez été triste? Est-ce que vous avez été touchée par l'arrêt de Concorde?
Ah ben, je crois qu'on a été tous touchés, que ce soit nous pilotes qui étions sur Concorde ou ceux qui n'en ont jamais fait. Tout le monde a été vraiment très triste de cette nouvelle parce que c'était le fleuron d'Air France, mais aussi de la France. Et depuis, plus jamais un avion supersonique de passagers n'a volé. Et je ne pense pas qu'il y en aura dans les années à venir. Donc c'est vrai que c'est triste de régresser dans l'histoire aéronautique.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir accordé du temps et de nous avoir permis de voler avec vous ce soir, Béatrice Vial. L'avenir, on va en parler avec vous dans un instant, Gérard Felzer. Passez une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup, Béatrice Vial, d'avoir été avec nous.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
On revisite ce soir dans Jour J l'histoire de l'avion supersonique qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire aussi de l'aviation. Il était la fierté de l'association franco-britannique à travers le monde entier jusqu'à son crash le 25 juillet 2000. Le dernier vol de Concorde a eu lieu en 2003. Depuis, les appareils ont une deuxième vie, si je puis dire, dans des musées de l'air et aux abords des pistes de l'aéroport d'Orly. C'est un peu triste quand même de le voir désosser de la sorte et vieillir à terre, je dirais, Gérard Felzer. Ça vous fait quoi, vous ?
Oui, mais en fait, quand je recevais mes visiteurs, ils étaient toujours subjugués.
Au musée de l'air, hein ?
Au musée de l'air au Bourget, je les faisais rentrer dans le cockpit et il est intact, on peut toujours abaisser le nez. Mon rêve, ça aurait été qu'on remette en route les réacteurs, ne serait-ce que pour le faire rouler, pas décoller, parce que là, c'est trop compliqué, mais en tous les cas, continuer à le faire vivre et puis faire vivre les gens qui s'en sont occupés, les mécaniciens, l'entretien, les pilotes, etc. C'est un témoignage du passé qui doit rester encore vivant.
Alors, qu'il faut évidemment conserver, on l'a bien compris, dans des musées. Et en même temps, vous me le disiez il y a un instant en antenne, c'était triste de voir cet avion s'arrêter, mais il fallait peut-être arrêter les dégâts aussi.
Oui, absolument. D'une part, le bruit, les riverains, enfin, ça devenait insupportable. On supporte de moins en moins le bruit des avions. Et puis, 450 litres par minute, franchement, à une époque où on parle du réchauffement climatique, ça n'a plus beaucoup de raison d'être. Il dépensait quand même 15 litres au 100 km par passager, alors que sur un Airbus, aujourd'hui, on en est à moins de 3 litres. Oui. Donc, on a fait des progrès, et ces progrès ont été réalisés grâce à la technologie du Concorde.
Voilà, c'était un peu un laboratoire, finalement, Concorde, hein, pour la suite.
Complètement. Il y avait les premières commandes de vol électrique. Maintenant, tous les avions, que ce soit Boeing, Airbus ou d'autres, ont adopté ce système. Pourquoi il l'a fait ? Parce que, vous savez, lorsqu'il y a du réchauffement, parce qu'il va très vite, eh bien, l'avion s'allonge. Et donc, ce n'est pas compatible avec des câbles. Bah, tout simplement, on a fait donc des commandes de vol électrique et on a fait pour la première fois des déplacements du carburant d'avant en arrière pour avoir un centrage le plus favorable possible. On économise 5% de pétrole et je vous en passe. Il y a énormément d'innovations. On a mis 11 ans pour le mettre au point. C'est la vraie rupture technologique. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a toujours les moteurs, les ailes, etc. Ça va venir avec des avions peut-être écologiques.
Alors,
en tous les cas, on n'est pas là aujourd'hui.
C'est l'avenir, l'avion écolo ? Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose ?
On espère qu'en 2035, on aura un avion moyen ou court courrier électrique, c'est-à-dire on va revenir aux hélices, on ira un tout petit peu moins vite, mais c'est pas grave. Et puis on fait aussi dans les nouveaux carburants l'hydrogène, mais si on emploie l'hydrogène qui n'émet que de l'eau, je rappelle, si c'est de l'hydrogène vert en tous les cas, fabriqué à partir d'énergies renouvelables, eh bien on arrivera à un avion pratiquement zéro pollution. Ça sera probablement pour les années 2050. Ça prendra du temps. Mais en tous les cas, on est prêt. Et aujourd'hui, on fait déjà du carburant synthétique. C'est-à-dire que on capte du CO2 dans les cheminées d'usine, par exemple. On le mélange avec de l'hydrogène vert et on en fait un carburant synthétique à neutralité carbone.
Et ça, il est déjà utilisé, ce carburant ?
C'est déjà certifié. La seule problématique, c'est 4 à 6 fois plus cher que le kérosène traditionnel. Bah, faudra peut-être faire un effort du point de vue financier.
Aux prémices là des vols spatiaux commerciaux, hein, en ce moment on prend des fusées, on s'envoie en l'air vraiment très très haut. Est-ce qu'on peut espérer voir un jour un nouvel avion supersonique ou pas du tout ?
Alors,
même écolo ?
D'abord, même écolo, ça va être difficile entre la vitesse et la consommation, le bruit. Mais en tous les cas, il y a déjà des avions depuis longtemps. Aux États-Unis, le X-15, 7000 km/h en 1967, donc ça ne date pas d'hier. Et puis ensuite, on a eu, et on a toujours aujourd'hui, les bombardiers stratégiques. Malheureusement, c'est que militaire.
Voilà, c'est pas commercial.
Le Tupolev 160, qui est un avion qui est à 36 exemplaires, qui vole toujours. Et on parle, les Russes parlent actuellement, d'en faire un avion commercial. Donc, on n'est pas très loin de retrouver, mais c'est plus tellement d'actualité avec les conférences par Internet. Quel est l'avantage d'aller faire un aller-retour New York dans la journée ? À mon avis, c'est plus d'actualité. L'actualité, c'est vraiment faire l'avion respectueux de l'environnement.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Gérard Felzer. Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, je rappelle que vous êtes président d'Aviation Sans Frontières et que votre livre s'intitule « Si tu peux, vas-y !» Journal d'un pilote aventurier aux éditions XO. Ça vous a rappelé plein de souvenirs ce soir.
Ah, c'est.
Vous y pensez souvent ?
Oui, je me réveille souvent la nuit en disant je vais être en retard. Mais ça ne nous quitte jamais. 30 ans de pilote sur une compagnie aérienne, c'est quand même un bonheur absolu.
Merci d'avoir accepté mon invitation.